Binti Minoudi, l'émission politique d'RCFM, Patrick Vinciguer.
Bienvenue dans ce nouveau numéro de Binti Minoudi, avec ce soir comme invité Dylan Champeau. Dylan Champeau, bonsoir.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Vous êtes nouveau en politique, enfin pas tout à fait, puisqu'en juin 2017, vous avez été candidat à la députation à Porto-Vecchio avec l'étiquette France Insoumise. Depuis, vous avez rompu les ponts avec Jean-Luc Mélenchon et êtes aujourd'hui vice-président de INSEM à Manque. Vous avez un peu moins de 20 ans, vous êtes donc en quelque sorte le Kylian Mbappé de la politique. Étudiant en droit et Sciences Po à l'Université de Nice, vous avez lancé le mouvement des Gilets jaunes, associé, on l'aura compris, aux Gilets jaunes. Ce sera d'ailleurs notre dossier de la semaine. Nous parlerons ensuite de la reconstruction de la gauche insulaire, vaste chantier, ou encore de la politique régionale. Mais avant donc, les Gilets jaunes, jusqu'où iront-ils? C'est notre dossier.
Binti Minoudi, le dossier.
Acte 1, 2, 3 et samedi acte 4, la mobilisation des Gilets jaunes ne faiblit pas malgré les débordements, malgré les violences de la semaine dernière, malgré les reculs du gouvernement qui a annulé les hausses de taxes prévues en 2019. Le mouvement non seulement se poursuit mais se durcit, certains Gilets jaunes appelant même sur les plateaux de télévision à prendre l'Élysée ou encore légitimant l'usage de la violence, comme celle de samedi dernier dans la capitale, une violence pourtant inédite, notamment contre les forces de l'ordre et estime Michel Delpouech, le préfet de police de Paris.
Jamais ces fonctionnaires n'avaient connu des faits aussi violents, aussi déterminés contre eux. Des jets de marteau, des billes en acier associées à des frondes, des aérosols associés à des dispositifs explosifs de type fumigène ou pétard lancés sur nos fonctionnaires.
En Corse, la grogne est en tout cas pour l'instant d'une moindre ampleur, sans violence. Frédéric, rencontré sur un barrage, semble le regretter.
Malheureusement, en Corse, on a du mal à rallier les gens. On espère qu'il y aura, je dirais, un regain de conscience et que les gens, vont se rallier à nous. Parce que là, ça fait 15 jours, il n'y a aucun élu qui est venu nous voir. Il est venu au rond-point 5 minutes pour discuter avec nous, mais pour des choses concrètes, non? Préfet, maire, Assemblée de Corse, on a dû nous y aller. C'est inadmissible. Le peuple, ça fait 15 jours qu'il se révolte et on ne nous entend pas. Donc si maintenant on va engendrer de la violence, qu'on va même se faire arrêter, c'est pas un problème. Parce qu'il faut qu'on nous entende.
Appel entendu par les lycéens qui, depuis le début de la semaine, à l'image d'Alexis, on rejoint la contestation.
La misère augmente de plus en plus en Corse. J'entends énormément de monde qui s'inquiète sur le terrain. De plus en plus de monde qui n'arrive plus à subvenir à leurs besoins. Et on nous promet de geler les prix en Corse. D'accord, geler les prix, mais geler les prix d'une vie qui est beaucoup plus chère que sur le continent. Donc ça ne va pas. Et nous avons décidé de rentrer dans le mouvement des Gilets jaunes pour montrer que même les jeunes, on s'engage parce que nous sommes concernés.
Plusieurs lycées de Lille sont aujourd'hui bloqués. Des barrages mis en place à plusieurs ronds-points. En attendant donc samedi l'acte 4.
Binti Minoudi, Patrick Vinciguer.
Avec ce soir comme invité Dylan Champeau, vice-président d'INSEM à Manque, initiateur du mouvement des Gilets jaunes. Dylan Champeau, alors que le gouvernement a déjà sensiblement reculé, qu'attendez-vous de cet acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes?
De cet acte 4, nous attendons une mobilisation toujours aussi forte. Je crois qu'il ne faut pas se laisser leurrer par les annonces du gouvernement. On est passé en quelque sorte du gazage à l'enfumage, car l'annulation n'est prévue que pour l'année 2019. On ne nous dit rien concernant les années à venir. Et je crois que ce qui est mis en cause par ce mouvement gilet jaune et gilet jaune, c'est une politique générale. C'est une politique qui date pas d'hier. C'est
une
politique...
Pourquoi vous attendez une annulation définitive des taxes? Ça aurait été une révolution pour le coup. Hein.
Une annulation définitive des taxes qui devaient être augmentées. Les taxes, nous ne sommes pas contre. La TVA, ça sert à payer des impôts. Nous ne sommes pas contre les impôts. Il faut rappeler que les impôts...
C'est un instrument de justice sociale, on peut le rappeler.
Il n'y a plus de justice sociale. C'est justement ça qui pose les gens dans la rue. C'est qu'aujourd'hui, il y a des injustices sociales et fiscales. Si les gens sont dans la rue, c'est également parce que, au niveau fiscal... Les gens payent trop d'impôts. La classe moyenne, elle est sous pression constamment. Nous, on avait proposé lors des législatives 14 tranches d'impôts. Et quand les gens se mobilisent, c'est pas seulement contre le carburant. C'est parti de là au départ. Mais c'est contre une politique, une ligne politique globale depuis des décennies.
On peut entendre ce discours, Dylan Champeau, mais ne craignez-vous pas de nouveaux débordements, de nouveaux déchaînements de violence, y compris des morts, que ce soit dans le camp des manifestants, dans celui des forces de l'ordre? Autrement dit, ne craignez-vous pas l'irréparable? samedi prochain, à Paris notamment.
On ne peut que regretter la violence. Vous savez, moi, et nous en général, ce ne sont pas nos modalités d'action, la violence. Mais il faut comprendre aussi cette violence. Quand des gens sont dans la rue, qui sont oubliés depuis des décennies, que la politique ne leur est pas favorable, ce sont des gens aussi dans la misère, pas tout le temps, mais il y a aussi une crise finalement de la représentation et les gens n'en peuvent plus. C'est un ras-le-bol général qui s'exprime. On ne peut que condamner la violence, mais il faut la prendre en compte,
dernier,
malheureusement.
Et samedi dernier, devant votre téléviseur, quand vous avez vu l'Arc de Triomphe mis à sac, quand vous avez vu des forces de l'ordre molestées, des commerces pillés, des manifestants ensanglantés, vous vous dites, en fin de compte, c'est légitime.
Non, je ne me dis pas que c'est légitime. Ça m'attriste même, je vais vous dire. Car l'Arc de Triomphe, c'est quand même un symbole national. Les forces de l'ordre, ce sont aussi des hommes. D'ailleurs, parlons-en de la situation des forces de l'ordre, avec des policiers et des gendarmes qui accumulent des heures, des effectifs qui ont été restreints. Je crois qu'il faut voir la situation politique dans sa globalité. Je déplore évidemment les violences. Il y a également eu 2 morts du côté des manifestants, 2 blessés du côté de la police. On ne peut que le déplorer. Et c'est pour ça que, justement, il faut sortir par le haut face à cette crise politique. Il faut sortir par le haut, ou sinon, cela va être bien plus grave, je le crains.
On va en venir aux solutions dans un moment. Mais tout d'abord, on revient un peu sur ce qui s'est passé. Par exemple, hier soir, on a un délégué des Gilets jaunes, Éric Drouet. Il a parlé très clairement de prendre l'Élysée par la force. Votre ex-ami, l'insoumis Jean-François Ruffin, tel un Robespierre, a lui prédit à Emmanuel Macron un destin à la Kennedy. C'est carrément un appel au meurtre. Christophe Chalençon, qui est également un délégué des Gilets jaunes, lui en appelle à un général à la tête du gouvernement, le général De Villiers. Est-ce que ce qui est en jeu samedi, finalement, ce n'est pas la démocratie, Dylan Champeau?
Au contraire, je crois que les revendications des Gilets jaunes s'appuient sur beaucoup plus de démocratie. On peut également analyser cette situation politique.
Et prendre l'Élysée, ce serait démocratique.
De la 5e République.
Prendre l'Élysée, ce serait démocratique.
Non, ce ne serait pas démocratique.
Mettre un général à la tête du gouvernement, ce serait démocratique.
C'est bien pour ça, d'ailleurs, que je dis sur ce plateau ce soir qu'il faut une sortie politique du gouvernement Macron. Il y a des mesures qui peuvent être prises de suite. Tout simplement, par exemple, la dissolution de l'Assemblée, et faisons des élections derrière, que les gens puissent s'exprimer, par exemple.
On a voté il y a 18 mois, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous étiez candidat, donc on recommence.
Écoutez, je crois que la situation actuelle nous pousse à le faire, c'est nécessaire. Il faut voir la crise que nous vivons, la crise démocratique, qui s'accumule à un système injuste, socialement, fiscalement. C'est ça, il faut tout voir dans sa globalité, et aujourd'hui les gens n'en peuvent plus, et on peut évidemment mettre sur les gens, leur opposer les derniers résultats des législatives, mais ce n'est pas ça la solution. Et je crois qu'il faut entendre la colère qui gronde. Le peuple, c'est quand même la légitimité d'Emmanuel Macron. C'est le peuple qui a élu Emmanuel Macron, malgré l'abstention, malgré la peur du FN au second tour. Mais Emmanuel Macron tient sa légitimité de nous. Il doit nous écouter.
Il n'est plus légitime aujourd'hui, selon vous?
Je ne sais pas, faisons des élections et on le saura alors.
Alors justement, il y a eu des élections il y a une dizaine de jours à Évry. Évry dans l'Essonne, c'est pas Évry, ce n'est pas Neuilly.
Ah, c'est certain.
Qui est arrivé en tête?
La République en Marche. C'est La République en Marche, avec 18% d'abstention, de participation, autant pour moi.
Mais justement, c'était le moment ou jamais de se mobiliser.
Et malheureusement, oui, mais je ne suis pas Évry, moi, vous savez. Et puis, je crois que c'est un ras-le-bol des citoyens qui s'expriment. Les gens n'ont plus confiance. Quand je dis qu'il y a une crise de la représentation, il faut comprendre que les gens ne vont même plus aux urnes pour voter, tant ils n'ont plus confiance.
Mais c'est un dégagisme qui est inquiétant, parce qu'on veut dégager ceux qui sont en place, et on veut dégager ceux qui voudraient prendre leur place. Je pense à la France Insoumise, au Rassemblement National, et c'est même l'auto-dégagisme, puisque quand on désigne un porte-parole de ces Gilets jaunes, il est immédiatement désavoué. Où ça nous amène?
La politique qui est mise en cause aujourd'hui, cela fait des décennies à gauche que nous nous battons pour. Contre cette politique, je veux dire. Et évidemment, nous n'avons pas été entendus parce qu'il y a eu des erreurs stratégiques, il y a aussi une dérive libérale et capitaliste du PS, mais il y a des revendications dans lesquelles nous nous reconnaissons, dans celles des Gilets jaunes. Évidemment, on peut craindre le pire dans ce mouvement de contestation, et c'est tout à fait normal, mais c'est le fruit d'une situation sociale qui ne date pas d'hier. Ça fait 30 ans ou 40 ans que le peuple est muet, qu'on ne lui donne plus la parole et qu'il n'a plus confiance en ses représentants.
Alors, parlons-en des signes inquiétants. Vous, l'homme de gauche plein d'idéaux, qu'avez-vous à voir avec Dieudonné, avec Yvan Benedetti, qui est théoricien de l'extrême droite, ou encore un Hervé Ryssen, négationniste, nationaliste, qui cette semaine, avec son gilet jaune, a fait la une de Paris Match. Autant de personnalités sulfureuses, mais il y en a beaucoup d'autres qui, samedi dernier, étaient sur les Champs-Élysées.
Idéologiquement, je n'ai rien avec eux, si ce n'est que l'on combat une politique. Celle d'Emmanuel Macron.
Et ça autorise tous les débordements ?
Ça n'autorise pas les débordements, ce n'est pas ce que je dis. Au contraire, et je crois que nous devons faire attention aux débordements, certaines fois les condamner, mais dire à Emmanuel Macron qu'il ne faut pas comprendre ces débordements, mais que c'est un signal.
L'heure aujourd'hui, d'Ilan Champeau, n'est-elle pas au dialogue, à l'apaisement ?
Il le faudrait, oui. En effet, et c'est ce que nous voulons depuis longtemps, et quand je vous dis qu'il faut une sortie par le haut, c'est évidemment par le dialogue. Or, je crois que ça ne marche pas. Les gilets jaunes sont attendus et sont entendus, je crois, à l'Élysée. Mais ils ne sont pas écoutés. C'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes face à une crise de la représentation qui fait que les revendications des gilets jaunes ne sont même pas entendues. Qu'est-ce qu'ils réclament, les gilets jaunes ? Et qu'est-ce que l'on réclame en général du côté des citoyens, justement. On réclame du pouvoir d'achat.
Qu'il faudrait demain ? Augmenter le SMIC.
Augmenter le SMIC, par exemple, bien sûr. Augmenter le SMIC, rétablir une justice fiscale, rétablir l'ISF dans sa totalité, baisser la CSG alors qu'elle a été augmentée, remettre les APL. Voilà. C'est ça qui est contesté aujourd'hui. Et nous, on l'a contesté aux législatives, évidemment, on n'a pas été entendus. Et c'est facile de nous taper dessus comme ça. Mais aujourd'hui, c'est ça qui est représenté et c'est ça qui est réclamé par les gilets jaunes. Alors après, au niveau des propositions, j'entends qu'on dit oui, mais les gilets jaunes n'ont pas de propositions. Mais ce n'est pas notre métier de faire des propositions. Il y a quand même des députés qui sont élus, des sénateurs qui sont élus. Nous, aujourd'hui, nous avons des revendications et j'espère que nous les faisons entendre. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron doit reculer.
Mais il y a beaucoup de revendications. Il y a quasiment une revendication par rond-point. Chacun dit la sienne. Alors vous vous dites augmentation du SMIC, car d'autres disent suppression de l'assistanat, notamment vis-à-vis des migrants. Donc il est difficile d'apporter une réponse cohérente à des revendications qui ne le sont pas. La démocratie du rond-point ou des ronds-points a ses limites, vous ne trouvez pas ?
À ses limites, c'est certain. Mais c'est une colère populaire. Et évidemment que les revendications ne sont pas les mêmes partout en France. C'est normal d'ailleurs. Heureusement que le peuple n'est pas uniforme. C'est protéiforme un peuple. Il y a des gens qui pensent ceci, il y a d'autres qui pensent cela. Mais je crois qu'aujourd'hui...
Mais là, il y a des contradictions entre augmenter, diminuer les taxes et diminuer la dépense publique. Quand on veut le maintien des services publics, notamment dans le milieu rural pour éviter la fracture territoriale, il y a quand même une contradiction.
Et c'est justement à nous de dire que nous voulons plus de services publics. Nous voulons enlever la CSG, la baisser. Nous voulons le rétablissement des APL. Nous voulons le rétablissement de l'ISF. C'est aussi ça qui est mis en cause. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Mais nous avons un rôle à jouer quand même à gauche aussi. Il y a des revendications. Lorsqu'on parle de chambre citoyenne, de 6e République, je pense que beaucoup peuvent se reconnaître dans ce discours que nous avons porté et que nous portons toujours.
Le 18 décembre débutera en Corse, on vient de l'apprendre, une conférence sociale mise en place notamment par le président de l'exécutif de Corse, Gilles Simeone, et le président de l'Assemblée, Jean-Guy Talamogne, pour essayer de trouver une solution ici. Vous êtes prêt à participer à ce dialogue, vous, la gauche, Insem Amank ?
Nous avons toujours été ouverts au dialogue et socialement, je crois que nous avons beaucoup de propositions à faire. Après, à qui va s'adresser cette conférence sociale ? Je ne sais pas. Quels sont les interlocuteurs de l'Assemblée de Corse ? Je ne sais pas. En tout cas, j'apprécie le fait que les nationalistes et la majorité nationaliste se rendent enfin compte qu'on a besoin de social en Corse, car il est mis aux marges de la politique.
Alors la première réunion, je le dis en même temps que je vous le dis, la première réunion concernera le prix des carburants et le prix des produits de consommation courante. Vous pensez qu'aujourd'hui, c'est ça le problème ?
Bien sûr, les prix de consommation...
Ce n'est que ça.
Mais le problème, il est global, je me tue à vous le dire depuis
tout
à l'heure.
Le prix du carburant a baissé depuis une semaine,
oui,
non pas en raison de la diminution des taxes, mais en raison du prix du baril qui a diminué.
Bien sûr, je l'ai constaté également, mais nous sommes quand même la région la plus pauvre de France, avec des prix les plus chers. C'est contre la cherté de la vie que l'on se bat. Quelles sont les réponses qui sont apportées aujourd'hui par l'Assemblée de Corse ? Alors, j'entends qu'il va y avoir une conférence sociale, mais nous attendons des réponses concrètes. Aujourd'hui, que fait la majorité nationaliste ? C'est la politique des symboles.
On va y revenir sur le bilan de la politique des nationalistes au pouvoir depuis 3 ans. Mais avant de clore ce chapitre sur les gilets jaunes, cette dernière question, jusqu'à présent, en tout cas, ce mouvement est moins virulent chez nous qu'ailleurs sur le continent, alors qu'ici, on l'a dit, le prix du carburant est plus élevé encore, et c'est l'élément déclencheur. Selon vous, pourquoi ?
Écoutez, ça, je ne peux pas vous répondre. Il y a quand même de la mobilisation. Ça, on ne peut pas le nier. Je l'ai vu toute la journée aujourd'hui et la journée d'hier également. On ne peut que se féliciter des mouvements de mobilisation qu'il y a actuellement en Corse aussi. Et j'invite les gens à aussi aller dans la rue pour manifester leur mécontentement. Car en Corse, nous ne sommes pas touchés. Nous sommes touchés également par les politiques.
20 minutes, l'émission politique.
Alors, Dylan Champeau, venons-en à la Corse. On y était, on y reste. Vous êtes vice-président d'Insem et Amanque. Insem et Amanque, né de la fusion de la Manque Alternative et de la Corse Insoumise. Où vous situez-vous aujourd'hui sur l'échiquier politique insulaire? À l'extrême gauche?
Non, nous nous situons à gauche, avec des revendications claires et précises, dans la lignée historique de ce qu'a fait toujours la gauche, en Corse comme au niveau national. Et... c'est tout, je crois que nous avons beaucoup de revendications à apporter. Nous avons aussi à analyser la dérive du Parti Socialiste, mais également des radicaux de gauche en Corse, qui en quelque sorte ont trahi la gauche et l'idéal de gauche. Nous, aujourd'hui, nous nous inscrivons dans une lignée politique de gauche en rupture avec un système capitaliste et de domination des gens, tout simplement. C'est l'argent roi, aujourd'hui, que nous combattons.
Rupture, y compris avec Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise, les ponts sont toujours rompus.
Je ne sais pas, vous savez, il n'y a aucune animosité entre Jean-Luc Mélenchon et nous. Vous connaissez les problèmes que nous avons eus lors de la campagne des territoriales en décembre dernier. Nous n'avons pas été entendus, nous avons également été pris en tenaille d'un côté par Jean-Luc Mélenchon, d'un autre côté par une partie sectaire du Parti communiste qui n'ont pas joué le jeu. Mais voilà, le problème aujourd'hui, c'est que nous ne sommes plus à l'Assemblée de Corse pour avancer nos revendications. Et on ne peut faire qu'un travail d'autocritique.
Et où en sont vos rapports avec les communistes avec qui vous aviez fait liste commune au territorial de décembre dernier?
Les rapports ne sont pas mauvais. Nous nous retrouvons dans la rue, comme nous le ferons samedi pour la marche pour le climat, je l'espère. Les communistes sont nécessairement des alliés politiques dans la rue, évidemment.
Alors aujourd'hui, en Corse, la gauche est un champ de ruines. Elle est en déliquescence. Il n'y a même pas, comme sur le continent, la France insoumise. Est-ce qu'une reconstruction est possible et sur quelle base et avec qui?
Justement, nous la faisons, cette reconstruction. En tout cas, nous y mettons beaucoup de temps. Je crois qu'il faut convaincre. Il faut convaincre également parmi les abstentionnistes. Il faut convaincre parmi ceux qui ont toujours cru en la gauche. Et je crois que c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de remettre un petit peu la question sociale au cœur du débat politique, car c'est nécessaire. Il y a quand même un Corse sur cinq qui est sous le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est quand même moins de 1000 euros. Je crois qu'on connaît une situation sociale qui est critique. Critique en Corse, et c'est cela que nous voulons représenter, ces personnes-là.
Et c'est possible de s'entendre avec les socialistes, avec les radicaux de gauche que vous avez évoqués tout à l'heure?
Dans la mesure où ils ont accepté l'économie de marché et le capitalisme, je ne crois pas. Je ne crois pas, non. Nous pouvons discuter. Vous savez, nous, Insem Amanque, que nous sommes ouverts au dialogue. Mais aujourd'hui...
Insem Amanque, que ça veut dire ensemble à gauche, mais là,
bien
vous êtes
sûr.
Seul.
Nous sommes seuls, je ne sais pas, nous avons quand même...
Non, mais si vous ne voulez pas des radicaux de gauche, si vous ne voulez pas des socialistes...
Mais c'est pas qu'on ne veut pas des radicaux de gauche, c'est qu'ils ne mènent pas une politique de gauche, c'est une imposture.
Ni les socialistes.
Le Parti Socialiste en Corse n'est pas vraiment existant.
Donc seulement les communistes.
Même pas seulement les communistes, nous voulons faire avec le peuple, tout simplement. Nous avons des revendications à avancer et nous essayons de les faire entendre, c'est tout. Nous ne sommes pas fermés à quelconque discussion avec quelque parti ou mouvement politique que ce soit.
Comment vous situez-vous par rapport aux nationalistes qui sont au pouvoir?
Je crois que nous sommes en opposition, déjà dans la mesure où ils n'ont pas de ligne politique. On ne sait pas quel est le projet des nationalistes pour la Corse. Quand on voit les votes à Paris des trois députés nationalistes, je m'inquiète également. Ils ne se sont pas opposés à la loi travail. Ils ne se sont pas opposés
Ils s'y sont opposés en deuxième lecture, me semble-t-il. Enfin bon, on ne va pas entrer.
Moi, j'ai vu qu'ils se sont abstenus également sur le budget de la sécurité sociale qui prévoyait une baisse de 4 milliards, dont 1,6 milliard pour les hôpitaux. C'est grave quand même. C'est pas un projet d'avenir que nous voulons pour la Corse. Que font les nationalistes en Corse à part des émojis à 52 000 euros?
Mais concernant, pour revenir aux députés, vous comprenez que leur discours, c'est la Corse est notre priorité après tout.
Comment ça, je comprends?
Eux disent la Corse passe avant tout, même dans leur vote au niveau national.
Oui, c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que la Corse aussi appartient à un pays et les politiques nationales nous touchent directement. Or, la majorité nationaliste, comme les députés nationalistes, ne s'opposent pas non plus à ces politiques nationales.
Comment jugez-vous le bilan des nationalistes après 3 ans au pouvoir, passés au pouvoir, à la tête de la CDC?
Passif. ils n'ont pas été vraiment actifs, si ce n'est la politique des symboles. Rien n'a été fait au niveau social. La crise des déchets qui existait bien avant l'arrivée des nationalistes à la CUC maintenant, elle n'est toujours pas réglée. Il y a beaucoup de chantiers qui sont menés, enfin qui sont élaborés, mais rien ne se fait concrètement.
Il y a eu le plan précarité, par exemple, où plusieurs millions d'euros ont été mis sur la table.
Oui, notamment la carte Ritarat. Je rappelle que la carte Ritarat, il faut un foyer fiscal de 14 000 euros annuels pour obtenir cette carte Ritarat, c'est-à-dire une carte de déplacement pour les personnes âgées, les retraités. Or, avec 14 000 euros par an, par foyer mensuel, annuel, les gens ont d'abord des préoccupations qui sont celles de finir les fins de mois et de manger plutôt que de voyager.
Donc, je crois que c'est
un effet d'annonce.
Un gadget, selon vous ?
Un gadget, non, mais je pense que c'est un petit peu de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie totale. Enfin, comment peut-on imaginer qu'une personne, un couple, à 14 000 euros par an, ça fait à peu près 600 euros par mois, puisse partir en vacances ? Avec ce foyer fiscal-là, les gens ont déjà du mal à manger. En dehors de ça,
mais
qu'est-ce qui est fait pour les jeunes ? La formation, l'avenir pour les jeunes, on n'en parle jamais dans cette île. Ce qui est proposé aujourd'hui comme perspective d'avenir pour les jeunes, c'est le tout-tourisme. Et aujourd'hui, ça ne marche plus. On ne peut pas travailler 6 mois dans l'année et être 6 mois au chômage ou être précaire pendant 6 mois.
Mais quels sont les leviers que pourrait activer la collectivité de Corse au plan régional ?
Eh bien, il y en a beaucoup.
Bah, déjà, au plan social, pardon.
Au plan social, vous savez que la collectivité de Corse a une clause de compétence générale, donc il y a beaucoup à faire. Et tout simplement, les logements sociaux, par exemple, sur une moyenne de 600 logements sociaux pour 10 000 habitants, en Corse, nous n'en avons que 400. Donc déjà, il faudrait lancer un grand plan de construction de logements sociaux. Cela fait 3 ans, on aurait pu au moins en discuter. Ce n'est pas fait. Il y a des gens qui sont dans des conditions de logement délétères et d'autres qui attendent depuis longtemps des logements sociaux. Ils ne sont pas entendus et rien ne leur est proposé. Il y a beaucoup de choses à faire en Corse et ce qui est triste, c'est que rien n'est fait, à part pour l'économie de la rente et évidemment les grands atriums, les grands centres commerciaux. Si c'est ça le projet de société pour demain, je crains beaucoup pour notre avenir.
Dernière question, il faut faire vite puisqu'on arrive au terme de cette émission, Dylan Champeau. Il faudra compter sur vous, sur INSEM et AMANC aux prochaines échéances municipales 2020, territorial de 2021.
Nous y réfléchissons. Ce qui est évident, c'est que nous avons des revendications. Et concernant les européennes, par exemple, nous alertons sur la situation de la gauche. Et il faut, je crois, une liste commune sur des revendications claires pour changer l'Europe. Car si nous y allons éparpillés, comme c'est le cas actuellement, avec une liste France Insoumise, une liste communiste, une liste Génération, etc., je crois que pour changer l'Europe, ça va être très difficile. C'est pour ça qu'il faut une discussion à gauche.
Le message est passé. Merci, Dylan Champeau, d'avoir été notre invité.
Merci à vous.
RCFM, Binti Minoudi. L'émission politique.
Voilà, Bitiminoudi avec Dylan Champeau, c'est terminé. Une émission à écouter ou réécouter sur notre site bleu-rcfm.fr. La semaine prochaine, même jour, même heure, Marie-Thérèse Mariotti, maire de Taillou-Isoulage et conseillère territoriale, membre du groupe Pelle à Ben à l'Assemblée de Corse. Voilà, dans un instant, vous retrouverez Michael Andréani.